Tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et il s'écria en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence. On avait commencé la semaine passée, puis là on va continuer ce soir. Puis ensuite de ça, prochainement, après les mystères, j'avais pensé de regarder par rapport à une étude sur Joseph, le choix du père, comme deuxièmement, la haine de ses frères, la tunique de plusieurs couleurs, puis après l'humilité de Joseph. C'est-à-dire que ces quatre points qu'on regardera, Seigneur voulant, dans l'histoire de Joseph. Vraiment une histoire intéressante, l'histoire de Joseph. Mais ce soir, on va terminer ce qu'on avait commencé avec le mystère de la grande Babylone. Puis, on va peut-être demander au Seigneur de nous aider. Ensuite, on lira notre passage. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore une fois de nous réunir ainsi, même si on est à distance. On te remercie pour la technologie qui nous permet de pouvoir se rencontrer comme cela, Seigneur, même de se voir, puis de pouvoir partager ta parole ensemble. Seigneur, on te demande ton aide parce que avec ta parole, tu nous as aussi donné ton esprit afin qu'on puisse connaître les choses de ta parole et qu'on puisse s'exhorter ensemble, s'encourager, s'édifier sur notre très sainte foi. Alors, en attendant le retour béni de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient nous prendre pour nous emmener avec lui comme il nous en a fait la promesse. On veut te remercier pour cela, Seigneur, puis on te demande ta bénédiction sur cette soirée ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, pour notre texte, on va aller dans Apocalypse. On lisait le chapitre 17 et 18. On va pour par rapport au mystère de la grande Babylone. Au verset 1, il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Et un même dessein est de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur et un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de peur à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil à cause de cela. En un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de lin, de pourpre et de fin lin, de pourpre et d'écarlate et paré d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure. Tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus, et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, et on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. Une chose à remarquer, c'est que Babylone commence dans la Genèse, puis c'est tout au long de la Bible. C'est pour ça qu'on arrive à la consommation dans l'Apocalypse avec sa destruction. Babylone représente tout l'effort de l'homme dans tous les domaines, dans toutes les sphères, d'essayer de se passer de Dieu, d'essayer d'avoir l'utopie sans Dieu, que ce soit au point de vue religieux, politique ou même commercial, comme on va voir ce soir. Donc, ça remonte, tout ce qui est ici dans l'Apocalypse, ça se réfère à tout le reste de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il faut voir dans cette Babylone-là, ça remonte jusqu'au début, là, quand il apparaît dans la Genèse. On avait dit que il y avait la Babylone historique, on avait vu ça la dernière fois, il y a la Babylone historique, il y a la Babylone prophétique. Historique, c'est quand elle a commencé avec Nimrod, la tour de Babel et toutes ces choses-là dans la Genèse. Prophétique, c'était au temps où, quand Ézéchiel, Jérémie et Ésaïe ont parlé au peuple d'Israël qui ont été emmenés en captivité dans à Babylone, même le siège de l'idolâtrie. Et aussi, on avait commencé à regarder, c'est la forme mystique. La forme mystique, c'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse avec la forme religieuse, la forme politique et la forme commerciale. C'est ce qu'on voit ici dans les chapitres 17 et 18 ici, là. Donc, la forme religieuse, c'était la femme. La forme politique, c'est la bête. La forme commerciale, c'est la ville. Donc, on a ces trois choses-là qu'on voit et qui vont toutes être détruites. Le Seigneur va détruire. On voit que ça se rapproche aussi de ce que Daniel avait vu dans la statue. C'est la même chose, c'est qu'à la fin, le Seigneur Jésus, comme une pierre sans l'aide d'aucune main, vient frapper la statue dans les pieds et que toute la statue s'écroule et est emportée par le vent comme la balle est emportée de l'air. Puis le Seigneur Jésus va installer son règne à ce moment-là. Donc, on avait vu ça. On est maintenant dans la forme. On avait vu la forme religieuse. C'était la femme, une religion mondiale sans Dieu. C'est l'Église, c'est cette femme-là qui a l'autorité, qui usurpe. Puis toujours quand on parle de femme en autorité, c'est une usurpation de l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est pas la femme qui est la tête. Comme pour l'Église, c'est le Seigneur Jésus qui est la tête. Puis quand on voit dans l'Apocalypse qui parle de la femme, tu laisses la femme Jézabel prophétiser, mais c'est que vraiment l'Église a commencé à prendre l'autorité. L'Église n'a pas l'autorité. Puis quand c'est l'Église qui a l'autorité, qui prend l'autorité, c'est une usurpation de l'autorité du Seigneur Jésus. Donc l'Église, elle ne doit pas prendre de décision, elle doit faire ce que sa tête lui demande de faire. C'est le Seigneur Jésus ici. Donc, c'est ça, on était rendu, on avait regardé la forme religieuse, c'est ça, c'est le mystère, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Ça, c'est la femme qui est assise sur la bête écarlate, qui a sept têtes. Là, on commence à regarder la forme politique en lisant le chapitre 17, les versets 8 à 18. On va relire encore, il dit, la bête que tu as vue, était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe. Et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. On voit que tout ce système-là, c'est contre le Seigneur Jésus. Ils vont combattre contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc ici, c'est la force politique comme une bête. C'est un chef, mais c'est une bête qui monte. On l'avait vu dans le chapitre 13 de l'Apocalypse au verset 1, c'est la bête qui monte de la mer. Donc quand on parle de la mer, c'est les peuples, les nations. Et cette bête-là, elle monte de la mer, elle émerge des nations. Mais elle est écarlate, elle est pleine de noms de blasphème, puis sept têtes. Donc, elle n'est pas, aucune soumission à Dieu, c'est vraiment la personnification que Satan donne à un homme contre Dieu. Parce qu'ils vont faire la guerre à l'agneau, mais l'agneau va les vaincre. Donc, il y a sept têtes et 10 cornes. Puis, La femme, elle était assise sur cette bête-là. Mais on voit que la bête, puis les rois, y haïssent la prostituée. C'est une union qui, elle est assise sur les autres comme pour les contrôler, parce qu'on était assis sur la bête. Puis, comme il dit aussi au verset 18, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, c'est comme si elle se donne une position de contrôler les rois de la terre. Puis, on voit que l'Église a fait ça, hein. L'Église catholique a fait ça. Elle a dominé sur des rois. Mais vraiment, la bête utilise la femme, la prostituée, pour se donner, parce que vous savez, pour avoir le plein pouvoir, il faut avoir le pouvoir religieux et avoir le pouvoir politique réunis ensemble. Ça donne, parce que l'empereur ou celui qui est à la tête de cet empire-là, cette bête-là, va recevoir l'adoration. Puis c'est le faux prophète, c'est la femme qui va donner aux nations d'adorer la bête. Fait que c'est pour ça qu'ils l'utilisent, mais quand son but est atteint, ils vont la détruire, puis c'est le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Dieu fait en sorte que la bête va haïr, puis il va, avec les rois, ils vont détruire cette femme-là, cette prostituée-là. Elle est assise. Mais ici, on voit que c'est l'Empire de Rome qui va être reconstitué. Mais comme j'ai dit, il parle de sept têtes qui sont sept montagnes. Donc, quand on parle de ces, les sept têtes sont sept montagnes au verset 9 sur lesquelles la femme est assise. Puis, comme j'ai dit, il faut remonter jusqu'au début, là. Il faut remonter au début. C'est sûr que plusieurs disent que c'est Rome, mais c'est l'Empire de Rome qui va être reconstitué. Puis, ils disent que Rome a sept collines, mais vraiment, on voit que ça remonte jusqu'au début, là. C'est pas juste l'Empire de Rome qui va être détruit. C'est les empires auparavant qui vont tout être détruits, comme la statue de Daniel. Toute la statue s'écroule, pas juste Rome qui est frappée, qui est reconstituée dans les pieds de la statue, mais tout au complet, toute l'autorité que Dieu avait. C'est des empires qui ont été en rapport avec Israël, des empires qui ont dominé sur Israël. Puis c'est pour ça que le Seigneur Jésus, lui, quand il frappe, il va toute l'autorité, tous ces empires-là, ils vont tous s'écrouler. Donc, il parle de, c'est pas l'histoire en général, mais c'est l'histoire en rapport avec le peuple d'Israël. C'est l'histoire que la Bible nous donne. Tout ce qui est mentionné dans la Bible, les nations qui sont mentionnées dans la Bible, c'est toujours à cause de leur rapport avec Israël, parce qu'Israël a la première place dans la pensée de Dieu. C'est le peuple choisi de Dieu. Puis Dieu a un but avec eux autres, mais on voit que dans la parole de Dieu, les nations qui sont mentionnées, tous les peuples qui sont mentionnés, c'est toujours en rapport avec leur relation avec Israël. Puis, quand on parle de ces sept têtes-là, il nous dit que ces sept têtes-là sont des montagnes. Comme la femme qui est assise la bête, puis est assise sur les eaux. Donc, les eaux, on sait que c'est pas littéral. Ça veut dire, ça représente les nations. Elle est assise sur les nations. De la même façon, on voit que ces montagnes-là, ce n'est pas des montagnes littérales, c'est une métaphore. Puis, on sait que la pierre qui représente le Seigneur Jésus, quand elle frappe la statue dans les pieds, bien, cette pierre-là, il nous est dit qu'elle devient une grande montagne. Donc, ça nous parle d'un pouvoir, d'un empire. Ces montagnes-là, ça nous parle des empires. Comme le Seigneur Jésus va devenir l'empire dans le millénium, c'est lui qui va régner sur toute la terre. Donc, quels sont les empires qui ont régné par rapport à Israël? Ben, puis il dit que ce sont aussi sept rois. Donc, c'est des royaumes, c'est des montagnes, c'est des royaumes. Mais il y a aussi le roi, ce sont aussi des rois. Donc, c'est un royaume et son roi. Il nous est dit que, on sait que l'Égypte a été un royaume qui ont dominé sur Israël. Le Seigneur les a appelés hors d'Égypte. Puis, le roi, c'était Pharaon. C'est certain que le terme Pharaon, c'est un terme, il n'y a pas eu juste un Pharaon, mais c'était le roi de l'Empire de l'Égypte. C'était les Pharaons à ce moment-là. L'Assyrie, qui était représentée par Sanchérib. Donc, il y avait l'Assyrie, qui est un autre, qui ont dominé sur les 10 tribus du Nord. Ils ont emmené en captivité, mais il était un empire qui ont dominé sur Israël, puis c'était Sanchérib qui était leur roi. Il y a aussi Babylone, qui est aussi, que c'était Nebuchadnezzar, symbolisé par leur roi Nebuchadnezzar. On a aussi les Mèdes et les Perses, c'était Cyrus qui était leur roi. La Grèce, qui était aussi le roi de la Grèce, c'était Alexandre le Grand. Mais dans le temps de Jean, il y en avait un, comme Jean, il nous dit qu'il y en avait un qui était à ce moment-là. Il dit, ce sont au verset 10 du chapitre 17, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, donc les 5 premiers qu'on a nommés, Égypte, Assyrie, Babylone, les Mèdes et les Perses et la Grèce. Il dit, 5 sont tombés, les autres sont tombés, un existe. Au moment où Jean écrivait l'Apocalypse, il y en avait un qui existait encore, puis on sait que c'est Rome qui existait au moment où Jean écrivait. Puis il dit, l'autre n'est pas encore venu. Donc, il y en a, la Rome de ce temps-là, elle, le roi, c'était César. Alors, les Césars, là, c'était eux qui étaient les rois de Rome au temps où Jean écrivait. Et ensuite de ça, l'autre qui va venir, ben là, ça va être l'Empire romain reconstitué. Puis lui, ben, le roi, c'est la bête. À ce moment-là, c'est plus les Césars, mais c'est la bête ici qui va être. Donc, c'est ça qu'on peut comprendre dans ces 7 montagnes-là. C'est ces empires-là qui vont être détruits par le Seigneur Jésus à la fin. Donc, c'est sûr que c'est quand même toutes des choses à comprendre, là. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Comme j'ai dit tantôt, puis là, les 10 cornes, les autres, c'est des rois dans la forme finale de l'empire qui vont donner leur autorité à la bête pour 1 heure. Donc, ça va être de courte durée. On sait que ce gouvernement-là, cet empire-là mondial, il y aura les 10 rois qui vont donner leur autorité à la bête, mais c'est de courte durée parce que ça va durer. On sait que la tribulation va durer 7 ans, la grande tribulation, 3 ans et demi. Donc, ça va pas durer longtemps. C'est ça. Comme au début, la forme religieuse domine sur la forme politique, mais c'est seulement parce qu'ils l'utilisent pour arriver à ses fins. Puis ensuite de ça, comme on a vu, ils vont la détruire, les rois et la bête. Ils vont détruire la femme, la prostituée, la forme religieuse. Après ça, on arrive à la forme commerciale dans l'Apocalypse 18, là. Le chapitre 17 décrit la femme et la bête, donc la forme religieuse et la forme politique. Mais le chapitre 18, lui, décrit la ville. Puis ça, c'est la forme commerciale. Ça fait que c'est vraiment le monde des affaires mondiales. C'est ça, c'est la politique. Mais il y a aussi l'économie, on pourrait dire l'économie ou la forme commerciale. L'économie mondiale. Puis c'est l'industrie, on voit que ça a commencé, cette industrie-là, dans Genèse au chapitre 4. Puis c'était la lignée de Caïn qui a commencé l'industrialisation et toutes ces choses-là, la culture, l'industrialisation, la commercialisation. Dans le chapitre 4 de la Genèse, au verset 20 à 22, on voit ces choses-là. Attends un petit peu, on va y aller. Genèse 4, 20, 22. Il dit, Ada enfanta Jabal. C'était le mec pris deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Tsila, le mec qui venait de Caïn. Il dit, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de l'harpe et du chalumeau. On peut dire, c'est le monde de divertissement. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Donc, on voit ici, ça, c'est l'industrialisation, la commercialisation. Puis ça, c'est de la lignée de. Il s'est dit ça de la lignée de Caïn. On monte à la lignée de Caïn. C'est tout ça sans. C'est tout le développement sans Dieu. Parce que les autres, ils n'invoquaient pas Dieu, c'est Énoch de la postérité de Seth qui ont commencé à invoquer le Seigneur. Mais tout ça, la commercialisation, l'industrialisation, le monde du divertissement, on sait que c'est tout essayer d'être prospère, d'être heureux sans Dieu. C'est tout ça, là. C'est ça qui va être détruit à la fin. Donc ça, c'est de la lignée de Caïn. Donc, ici, quand il parle de la Babylone, ici, qui est une grande ville, eh bien, ça, c'est plus qu'une ville géographique. Encore là, on dit que ça représente tout, là, tout ce qui était contre Dieu, tout ce qui était sans, essayer de réussir l'industrie sans Dieu. Donc, c'est plus c'est vraiment le monde des affaires mondiales. Puis, c'est l'industrie, la finance, la haute finance. Puis, comme la femme et la bête sont des métaphores, c'est pas vraiment une femme puis une bête, c'est vraiment la femme, c'est la forme religieuse, le communisme. La bête, ben, c'est la forme politique dans ce roi-là qui va régner. Mais là, c'est vraiment, c'est la ville ici, on doit la prendre aussi d'une façon métaphorique. C'est pas une ville, mais c'est vraiment tout le système mondial qui est sans Dieu, là. Donc, le monde actuel il est divisé entre les riches et les pauvres. On sait que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a une division dans l'humanité entre les riches et les pauvres. Il y a la haute finance. La haute finance, puis à l'autre extrême, il y a ceux qui n'ont rien à manger. Donc, sur la Terre, c'est comme ça que ça se passe, là. Il y a les pauvres, puis il y a les extra-riches, là. On sait que les Rothschild, puis les Rockefeller, ces gens-là qui dirigent la planète pour arriver à leur fin. Hein, c'est une soif de richesse. C'est une soif de contrôler dans le monde des affaires. Puis on sait qu'en arrière, même les gouvernements qu'on connaît aujourd'hui, ben, c'est ces gens-là qui sont très influents sur la Terre. C'est eux autres qui ont l'argent, c'est eux autres qui contrôlent la Terre, puis ils ont des buts à atteindre. Et ces buts-là, ben, c'est des buts sans Dieu. Ces gens-là, ils sont pas avec Dieu, ils sont sans Dieu, ils veulent marcher sans Dieu. Mais quand on voit dans le chapitre 18, les versets 12 à 13, il y a 8 classes de marchandises. Dans toutes les marchandises qui sont nommées ici, là, il y a les métaux précieux. Première classe, il parle des métaux précieux. Puis les versets 12 à 13, là, il dit cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles. Ensuite de ça, il y a les vêtements somptueux. Donc, c'est pour ça que les gens ils veulent la richesse, c'est pour avoir ces choses-là, pour pouvoir se payer ces choses-là, pour pouvoir jouir de ces choses-là, puis pensant être heureux avec ces choses-là. Mais il nous dit ici qu'après ça, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, puis après ça, on a les matériaux pour les meubles. Ça fait toute partie de la commercialisation, là, la marchandise qui peut s'acheter. Il dit de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Ensuite de ça, on a les contenants en bois, airain, en feu, en fer, en marbre. Ça, c'est des contenants qui sont faits. Ensuite de ça, on a les parfums ou les cosmétiques, qui dit de cannelle, d'aromates, de parfum, de myrrhe, d'encens. Puis après, on a la nourriture. De vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis. Puis ensuite de ça, on a le monde du transport. Ça fait toute partie de cette commercialisation-là, là, de chevaux, de chars. Et ensuite de ça, on a des esclaves, de corps et d'âme d'hommes. Quand on parle de corps comme des marchandises, même ça devient de la marchandise, le corps des hommes. Puis on voit comment c'est traité aujourd'hui, le corps. Hein? Le corps, on peut vendre des organes, on peut donner des organes, on achète des organes, c'est une marchandise, mais quand on arrive à des âmes, là, ça nous dépasse un petit peu, là, que des âmes d'hommes puissent être de la marchandise. Ben, Tout est bon pour du moment qu'on peut faire de l'argent, non, c'est ça qui compte. Je ne sais pas comment ça va se transmettre avec des âmes d'hommes qui vont être sur le marché. On sait déjà que les corps, c'est une marchandise qu'on peut utiliser pour s'enrichir. Donc, toutes ces choses-là, ça va être détruit. Puis, quand ce système-là est détruit, la commercialisation, on voit que la Babylone tombe. Puis là, ils disent malheur, malheur, parce que la grande ville qui. Les gens, ce sont les marchands de la terre, ils pleurent, puis ils sont dans le deuil parce que c'est la ville puissante. Ils se sont enrichis avec ce commerce-là. Puis là, ils vont vraiment pleurer, là. Donc, dans la destruction de cette commercialisation-là, c'est remarquable, hein, que comment est-ce que c'est transporté, ces choses-là, par bateau. Puis l'Apocalypse nous parle de ça. Puis aujourd'hui, comment c'est transporté? C'est quoi la façon d'expédier toute cette marchandise-là? On sait qu'il y en a beaucoup qui viennent de la Chine, mais comment elle peut être transférée, transportée d'une place à l'autre? La meilleure façon encore, c'est par les bateaux. Puis on sait, comme là, il parlait de faire une grève des débardeurs à Montréal, fermer le port de Montréal, puis il disait que ça coûterait des milliards à chaque jour pour pouvoir de fermer le port à cause de la grève. Puis même, il y en a qui ont essayé de gérer ça, de commander avant la grève ou même d'envoyer vers l'ouest pour éviter la grève. Ils disent que quand il y a des grèves comme ça, des débardeurs, il y a des bateaux qui attendent. Ils attendent que de pouvoir rentrer. Puis c'est ça qui est arrivé aussi à un moment donné, là. Les bateaux attendaient des mois. Imaginez-vous des bateaux chargés comme ça qui attendent leur tour de rentrer au port pour livrer leurs marchandises. Comment ça peut coûter? Mais là, c'est ça. Donc, c'est encore aujourd'hui, c'est par bateau que ça se fait, là. Puis on voit que la Bible était juste dans ce qu'elle a prédit, là. Il aurait pu y avoir d'autres façons. On dit qu'on a beaucoup avancé dans le progrès, mais c'est encore des bateaux. Il parle des pilotes qui viennent de partout, qui sur la mer pour apporter leurs marchandises. Mais quand ce système est détruit, là, la commercialisation, là, tout va tomber. Tout le marché va tomber. Ils peuvent plus, là, ils se sont enrichis. Au verset 15, il dit, les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles à cause de cette forme-là de commercial se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Donc, on voit qu'il y a quatre classes qui pleurent à cause de la destruction. C'est l'économie mondiale qui est tombée, là, et qui est détruite par le Seigneur Jésus. Puis il dit, au verset 9, il y a les rois. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Au verset 11, il y a les marchands. Au verset 11, il dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elles parce que personne n'achète plus leur cargaison. C'est bien beau d'avoir des cargaisons puis s'enrichir, mais quand il n'y a plus personne qui achète, quand il n'y a plus personne qui achète, c'est une grosse perte, là. Il dit, les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elles parce que personne n'achète plus leur cargaison. C'est toutes ces choses-là qu'on a énumérées. Au verset 17 aussi, les expéditeurs pleurent. Il dit, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, parce que c'est une façon aussi de s'enrichir, de transporter ces marchandises-là, et dit tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient. Ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, est détruite. Donc, il y a les expéditeurs, mais aussi, il y en a une autre classe. On a vu les rois, les marchands, ceux qui font ces marchandises-là pour les vendre. Il y a les expéditeurs qui transportent, mais il y a aussi le monde du divertissement. Le monde du divertissement aussi, c'est tout un monde qui vit sans Dieu, qui veulent être heureux sans Dieu. Puis au verset 22, il dit, et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc, on voit tout ça, qu'est-ce qui s'est fait sans Dieu. C'est l'homme qui agit sans Dieu. Puis le monde du divertissement aussi, là, il tombe aussi. Fait que toutes ces choses-là, quand la ville tombe dans une heure, sa destruction arrive, c'est tous les rois de la terre, les marchands, les expéditeurs, puis le monde du divertissement, tout s'écroule. On sait que c'est vraiment le monde du divertissement, c'est tout un monde. Puis c'est là, souvent, dans le monde du divertissement, on voit vraiment l'immoralité s'installer, puis qui s'est répandue, puis qui est venue jusqu'à nous. Hein? Mais s'il y a quatre classes qui pleurent à cause de la destruction de la grande ville, Babylone, il y en a trois classes de gens qui vont se réjouir. Voyez-vous ici, on voit là tout ce qui était sans Dieu, puis là, on va voir ce qui est avec Dieu. Mais ceux qui étaient avec Dieu dans ce monde-là, ils ont souffert. Puis on voit aujourd'hui que le monde dans lequel on vit, que ce soit politique, religieux, est contre commercial et le divertissement, et contre ceux qui vivent selon la parole de Dieu, ceux qui sont sauvés par le Seigneur Jésus, puis qui veulent suivre le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on s'aperçoit là que le monde dans lequel on vit est de plus en plus hostile aux témoins du Seigneur Jésus. De plus en plus hostile au Seigneur Jésus lui-même, mais aussi à ceux. Le Seigneur nous a dit, il dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis c'est là qu'on voit que la souffrance qu'on vit dans le monde à cause du fait qu'on appartient au Seigneur Jésus, puis qu'on veut être des témoins du Seigneur Jésus, ben, on va avoir la victoire à la fin. On sait que le Seigneur va nous accorder. Excusez, le Seigneur va nous accorder la victoire. Puis voyez-vous, au verset 20, le verset 20 et 24, il dit, Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes. Et vous, là, réjouis-toi. Les autres pleurent, les quatre classes pleurent, mais ces trois classes-là, ils se réjouissent. Le Seigneur, comme il disait à Lazare, puis au mauvais riche, quand il nous parle de Lazare, Lazare, dans sa vie, a eu ses maux, puis toi, tu t'es réjoui. Puis là, maintenant, toi, tu souffres ici, puis lui, il est réconforté. Lui, maintenant, il est rentré dans son espérance. Puis c'est la même chose pour nous autres. C'est pour ça que, en tant que chrétien, il faut s'attendre à souffrir. Il faut s'attendre à souffrir en tant que chrétien. Puis c'est triste à dire, mais on dirait que la génération qui est venue après nous autres, on a essayé de les gagner au christianisme en lui faisant voir le christianisme comme une partie de fun. Puis c'est triste à dire, mais souvent dans les camps, c'était une partie de fun, puis c'est le fun d'être chrétien, puis c'est un party, mais c'est pas un party d'être chrétien. C'est une lutte constante. Puis ces gens-là, ils vont rester tant que ça va être le fun, puis quand c'est plus le fun, on les perd de vue. Parce qu'on les a fait croire que le christianisme, c'était le fun. C'est sûr que c'est des joies éternelles à la droite du Seigneur. Mais ce n'est pas une partie de fun. On est dans un combat, on est dans des luttes, puis on pleure maintenant. Puis le Seigneur leur avait dit, il avait dit à ses disciples, hein, il a dit, vous pleurez maintenant, mais quand je vous reverrai, vous allez vous réjouir. C'est sûr qu'on est, Paul nous dit toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, oui, dans le Seigneur. On ne peut pas se réjouir sur la terre, parce que sur la terre, on est des étrangers et des voyageurs. On est malmené, puis de plus en plus, on va être malmené. D'autres, on a vécu des temps de paix dans un sens, qu'on n'a pas été persécuté physiquement, mais le jour approche. Si le Seigneur tarde, on va voir la persécution. Mais il y a des chrétiens qui ont été persécutés. Dans le temps de la persécution, ils se cachaient dans les catacombes. Il y a des gens qui ont été emprisonnés. Il y a des gens. Ils n'ont pas eu la vie facile pour suivre le Seigneur Jésus. Mais maintenant, le Seigneur lui dit, ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes. C'est tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus qui ont souffert à cause de tout ce monde-là qui voulait vivre sans Dieu. Mais maintenant, le temps est venu de se réjouir. Au verset 24, il dit, et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et donc, cette Babylone-là, elle est responsable de tout. C'est elle qui a persécuté. C'est le monde sans Dieu qui a persécuté ceux qui appartenaient au Seigneur. Donc, c'est ça qu'on voit. Puis là, ici, là, c'est la chute. Puis c'est toute la chute de tout au complet pour que le Seigneur Jésus vienne établir son règne. Puis, mais là, ça va être le temps où nous autres, on va se réjouir. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, là maintenant, on va être réconfortés. Là maintenant, on va se réjouir. Puis, eux, ils se sont réjouis pour un temps, mais c'est fini. Puis là, ça va être la perdition éternelle. Mais nous, on a souffert pour un temps, puis on va se réjouir pour l'éternité. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on comprend. Faut comprendre ça. Oui, on souffre pour un temps, mais c'est bien mieux de souffrir pour un temps que de souffrir pour toute l'éternité. Mais eux, ils sont réjouis pour un temps, ils vont souffrir pour toute l'éternité. Vous savez, les choses se préparent sous nos yeux. C'est sûr qu'il y a des gens qui nient ces choses-là, mais on voit que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur vient prendre son Église bientôt pour l'enlever avant d'abattre ce jugement-là sur la terre. Mais les choses se préparent sous nos yeux. Le 25 mars 1957, il y a des choses qui se sont mises en marche, qui progressent. Puis les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais ces choses-là progressent, mais se sont mises en marche le 25 mars 1957. Moi, j'avais 2 mois et demi à ce moment-là. Mais à Rome, la Belgique, à Rome sur le Capitole, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest et les Pays-Bas ont signé le traité de Rome. Donc, ils ont signé un traité, ces nations-là, qui sont les nations de l'Europe réunies ensemble, c'est l'Empire romain qui est reconstitué, parce que l'Empire romain s'est désintégré dans les pays d'Europe. Puis quand l'Europe revient ensemble, l'Europe économique, je me souviens, dans les années 90, on parlait de l'Europe qui commençait à se regrouper comme ça, la communauté européenne qu'on appelait. Puis je travaillais pour un monsieur qui était allemand. Puis il était en Nouvelle-Écosse, mais c'était un Allemand. Puis c'était un monsieur, c'était pas un chrétien, mais c'était un monsieur qui connaissait, c'est un monsieur instruit. Puis je lui ai demandé à ce moment-là, j'ai dit, est-ce que la communauté européenne qu'on voit maintenant surgir puis se former ensemble, est-ce que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec l'ancien Empire de Rome? Puis il m'a regardé tout surpris, puis il m'a dit, c'est l'Empire de Rome. Puis c'était pas un chrétien, là. Puis il parlait pas d'après une connaissance de la Bible. Il parlait d'après une connaissance de la politique, parce que c'était un homme qui était bien instruit. Puis il m'a dit, c'est l'Empire de Rome. Puis là, il m'a expliqué ça, que l'Empire de Rome s'était désintégré dans les pays d'Europe. Puis les pays d'Europe qui reviennent ensemble, c'est l'Empire de Rome. Donc, ils ont signé un traité, le traité à Rome sur le Capitole. Ils ont signé ensemble le traité de Rome. Puis c'était un marché commun entre les 6 pays. On voit ça, hein? Même le Canada, les États-Unis, on a eu ça aussi. C'est à la mode de faire le libre-échange, hein? De fonctionner ensemble. Puis c'est pour la commercialisation, pour faciliter les choses les marchandises passent d'une place à l'autre, ça devient plus facile. Donc, c'est un marché commun entre les 6 pays. Et depuis, cette union d'États européens fait son chemin, quoique ralenti par ce qui le retient encore. Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais moi, je vois vraiment que cet effort-là de se regrouper, puis quand la communauté européenne va avoir un chef, eh bien, les États-Unis sont plus de taille, là. Ça devient beaucoup plus puissant que les États-Unis. Maintenant, aujourd'hui, sur la Terre, le pays le plus puissant, c'est les États-Unis. Mais on voit même qu'ils sont tellement dans une faiblesse économique et morale Mais quand la communauté européenne va avoir son chef, eh bien là, ça va être la puissance mondiale ici. Mais il dit, mais ce chef-là, il apparaît pas. Puis moi, ça m'étonne de voir que si le Seigneur est pour venir nous prendre bientôt, sûrement qu'il est sur la terre présentement, mais il n'est pas encore manifesté comme le chef de cet empire-là, la communauté européenne. En octobre 57, en mars 57, le 25 mars, ils ont signé le traité de Rome. Mais en octobre 57, Paul-Henri Spaak, il dit, qui était à l'époque secrétaire général de l'OTAN, a dit à Paris, donc ça c'était en octobre 57, cet homme-là, Paul-Henri Spaak, qui était à l'époque secrétaire général de l'OTAN, a dit à Paris, on ne veut pas d'autres comités, on en a déjà trop. Donc, il réalise que des comités, c'est plusieurs qui se mettent ensemble pour diriger. Et donc, on ne veut pas d'autres comités. On n'en veut plus, on en a déjà trop. On veut un homme avec une stature suffisante pour tenir l'allégeance de tout le peuple. Ça prend quand même tout un chef. On voit aujourd'hui qu'il y a des chefs là, qui tiennent l'allégeance. On voit plus ça dans la politique, là. C'est des gens qui se font contrôler par les autres. Ce n'est pas des vrais chefs. On ne veut pas des vrais chefs non plus. On veut des gens qui vont se laisser manipuler par le peuple. C'est ça la démocratie. C'est le peuple qui décide. C'est un peu comme les enfants qui rendent la famille. Mais il dit, on veut un homme avec une stature suffisante pour tenir l'allégeance de tout le peuple. Donc, ça va prendre quelqu'un de vraiment puissant pour amener tout le monde à son obéissance. Il dit, de tout le peuple et nous sortir de ce marasme économique dans lequel nous sombrons. Puis il dit, envoyez-nous cet homme et soit-il Dieu ou démon, nous le recevrons. Voyez-vous, ça c'est en octobre 57 que Paul-Henri Spaak a dit ça à Paris. Donc c'est quelque chose, là. Donc Satan, sous la permission de Dieu, va voir à leur donner cet homme. Lui va leur en donner un homme. Puis, mais c'est quoi, nous autres, l'exhortation finale dans tout ça, c'est quoi? Ben, au chapitre 18, au verset 4 de l'Apocalypse, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Sortez, séparons-nous. C'est le temps, frères et sœurs, de se séparer de tout ça. On voit que les médias contrôlent la pensée du peuple. Mais nous, on n'embarque pas là-dedans. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Puis comment est-ce qu'on est transformé par le renouvellement de notre intelligence? C'est pas en écoutant ce que les médias disent, mais c'est en lisant la parole de Dieu. Puis le Seigneur, il va transformer pour pas qu'on soit influencé par la culture. Il faut pas qu'on soit influencé par la culture. C'est nous autres qu'on est influencés par la parole de Dieu, puis on reste. Le Seigneur a dit, sortez, séparez-vous. Puis ça a toujours été le message de se séparer du monde pour suivre le Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire de ne pas être dans le monde. On sait qu'il y a eu l'extrême, les gens ont été dans des monastères, mais c'est de se sortir de cette pensée-là de mondial, de vouloir réussir à vivre indépendamment de Dieu, puis de faire selon nos passions, de vivre selon nos passions. Donc nous autres, l'exhortation, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Il ne faut pas marcher avec ses péchés. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Que vous n'ayez point part à ses fléaux. Seigneur, il ne nous a pas destinés à la colère, mais il nous a destinés au salut. On ne sera pas là à quand ces choses-là vont arriver, on va être parti, on va être avec le Seigneur, mais déjà, quand ça se prépare, il ne faut pas embarquer dans la pensée du monde. Puis c'est triste à dire, mais on dirait que les chrétiens, on est portés à penser comme le monde par rapport à plein de sujets en rapport avec ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par la culture du monde. Puis c'est vraiment puissant aujourd'hui, ce message-là, il est vraiment poussé, il nous est poussé. Puis si, comme quelqu'un avait dit à la radio, puis c'est vrai, il dit oui, on a la liberté d'expression en autant qu'on dit ce que les autres veulent entendre, ce que les médias veulent entendre, Allez pas sur les médias puis dire des choses qui sont contre eux autres parce qu'ils vont vous crucifier. Mais c'est ça. C'est qu'on voit que les médias, vraiment, là, ils ont un agenda. Puis il faut pas, on peut dire, quand on parle dans le même sens qu'eux autres, pas de problème. Mais il ne faut jamais parler contre qu'est-ce qu'eux autres y croient parce qu'ils vont vraiment nous détruire. Fait que je m'arrête là pour ce soir, puis je vous donne la possibilité de pouvoir prendre votre micro et pouvoir, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire. Mais ça va terminer ce soir notre étude sur les mystères du Nouveau Testament. Ça fait quand même un bon petit bout de temps qu'on est là-dedans, mais j'espère que ça a pu être profitable.
Gérard, j'aimerais ça que tu renommes les pays qui ont signé le traité de Rome en 57, s'il te plaît.
Oui. OK, un
Oui.
petit peu. C'est le.
On l'avait.
Ouais, c'est le. Un petit peu, c'est. La France, la Belgique, la France, l'Italie, Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest et les Pays-Bas. Pays-Bas, c'est la Hollande.
Parle vite.
Est-ce que vous avez eu le temps de la mettre? Non, OK. Ben, c'est ça, c'est la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest. Dans ce moment-là, l'Allemagne de l'Ouest était séparée de l'Allemagne de l'Est. Maintenant, ils sont unis. Mais l'Allemagne de l'Ouest et les Pays-Bas, qui est la Hollande. On les appelle les Pays-Bas parce qu'ils ont des digues. Puis sont au-dessous du niveau de la mer. Ça s'appelle
Merci.
les Pays-Bas.
Merci.
Moi, j'ai une question, Gérald.
OK.
J'ai lu à quelque part, mais je peux me tromper, la Syrie, pas la Syrie, mais la Syrie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la Syrie, l'Iran et l'Irak? Est-ce que c'est ça ou
La Syrie.
la
La Syrie.
autre
Ouais,
chose?
mais quand tu parlais de la Syrie, là, c'était au nord. Puis c'était la Ninive. Ninive qui était la capitale de la Syrie, là. Puis c'est proche de Babylone.
OK. Quand on parle dans la parole de Dieu de la Syrie,
Ouais.
ça comprend quoi les pays d'aujourd'hui?
Mais c'est parce qu'il y a aussi la Syrie historique dans le temps d'Israël. Mais il nous parle de l'Assyrien. Puis l'Assyrien, là, il parle de ceux qui viennent de l'extrême nord, du nord lointain. Puis quand on arrive à ce nord lointain-là, c'est la Russie, qui n'était pas à ce moment-là, mais que maintenant, puis les pays, quand on parle de la Russie, on parle des pays de l'Est, là. L'Assyrien va avoir un grand rôle à jouer aussi, là. Mais moi, je crois vraiment que parce qu'on a une division dans l'humanité entre l'Ouest et l'Est, hein, que ce soit dans la religion, c'était la division de la religion catholique des années 1000, au début de ces années-là. Il y a eu Constantinople, qui est la Rome de l'Est, puis la Rome de l'Ouest, au point de vue religieux, là. Les orthodoxes, tout ça, ça. Mais aussi, au point de vue politique, on a les pays de l'Est et on a les pays de l'Ouest. Nous autres, on fait partie des pays de l'Ouest. Mais il y a comme une rivalité. Puis avec la guerre de l'Ukraine, on voit que tu as l'Est contre l'Ouest. L'Est est avec la Russie, puis l'Ouest, là, nous autres, on est avec l'Ukraine, là. Donc, il y a un conflit, puis c'est sûr que nous autres, tout ce qu'on entend, on entend du côté de l'Ouest. Il faut faire attention encore à ce moment-là. Mais à un moment donné, on voit que l'Est vont venir dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Attends un petit peu. Ils vont venir, l'Euphrate à votre tête. Non, pas le chapitre 12. C'est l'Euphrate va être. Il va avoir une armée de 200 millions. Puis l'Euphrate va être asséché pour que cette armée-là de l'Est vienne. Puis ils viennent pour attaquer la bête qui fait partie d'elle des pays de l'Ouest, la bête, l'Empire romain. Mais quand ils viennent pour attaquer la bête, les pays de l'Ouest, Le faux prophète va les séduire avec des prodiges, puis ils vont s'unir. Moi, c'est ce que je crois dans la parole de Dieu, là, dans l'Apocalypse. Ils vont s'unir. Pourquoi qu'ils vont s'unir? Ils sont ennemis, mais ils vont s'unir pour un but commun, c'est pour combattre contre le Seigneur Jésus. De la même façon que Pilate et Hérode, qui étaient des ennemis auparavant, ils se sont unis pour un but commun, c'était contre le Seigneur Jésus. Fait que, moi, c'est ça que je vois. J'essaie de voir là, dans quel chapitre qui est. En tout cas, il y a une armée de 200 millions, quelque chose, une armée de 200 millions qui viennent pour attaquer. Puis, quand ils vont traverser l'Euphrate va être asséché. Puis, ils vont. OK, c'est au chapitre 9. Verset 13, le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour et le mois. C'est un temps précis, là. Et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Ça, c'est 200 millions. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu. Donc, c'est une armée qui vient combattre. Là. Mais ils vont se rallier parce qu'il dit que toutes les nations vont se rallier contre Israël. Puis, ils vont se rallier aussi pour combattre contre le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Parce que ça va être l'effort ultime. Ces gens-là, qui sont des ennemis, vont s'unir pour essayer d'avoir la victoire sous la puissance de Satan, d'avoir la victoire sur le Seigneur Jésus. Mais on sait que le Seigneur Jésus, sans l'aide d'aucune main, la pierre vient frapper la statue, puis tout s'écroule, puis la destruction, comme on voit ici dans le chapitre 17 et 18, tout ce qui est le monde sans Dieu, tout ce qui était de politique, religieux, commercial, tout ce qui était essayer de réussir sans Dieu.
J'aurais
Merci.
une question, Gérald.
Oui.
Concernant le 18-10, ça dit que la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Et ensuite, le verset 16, ça dit, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. D'une manière pratique, comment cela peut arriver? Est-ce que c'est la fameuse pierre qui vient du ciel puis qui vient de la statue, probablement, mais comment ça peut arriver?
Mais on voit que dans les jugements aussi, la mer devient du sang. Imagine-toi. Tout va s'écrouler. Tout le système mondial va s'écrouler. Que ce soit politique, ça va s'écrouler parce qu'on sait que l'impie que le Seigneur Jésus va détruire par le souffle de sa bouche, par l'éclat de son avènement. Fait que le Seigneur va tout jeter sur terre. Tout ce qui a été construit par l'homme, c'est comme la tour de Babel qui avait été construite, le Seigneur a amené la confusion. C'est le Seigneur qui va faire en sorte. On sait que la femme, la prostituée, elle, c'est la bête puis les rois qui vont la détruire. Mais les autres, la commerciale, l'économie mondiale va tomber. Puis la forme politique va être détruite par le Seigneur. Parce que le Seigneur vient installer son règne de 1000 ans. C'est lui qui est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. On dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, mais vraiment, quand il dit dans le psaume 14, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de. Il n'y a, là, c'est pas dans l'original, c'était ajouté pour nous aider à comprendre, mais c'est l'insensé dit en son cœur, point de Dieu. Il veut pas la pensée de Dieu. Ils combattent contre la pensée de Dieu. Ils veulent anéantir cette pensée-là. Mais ça, c'est le résultat de cette façon de penser-là, de pouvoir vivre sans Dieu. On ne veut même pas la pensée d'un Dieu. Là. On veut pas ça. On veut. On a, on se. Puis la société dans laquelle on vit est tellement. Ils veulent rien savoir de Dieu. On l'a enlevé de partout. On ne veut pas vivre sans. On ne veut pas de lui. mais on voit que tous les problèmes que ça crée déjà présentement de vivre sans Dieu, d'enlever la pensée de Dieu dans la pensée des enfants à l'école. Puis...
Mais pour
Oui, je
la
peux.
rapidité que ça peut arriver de dans 1 heure, on n'a qu'à penser à, il y a des il retrouve des comment est-ce qu'on appelle ça là, pas des gens momifiés là, dans des sont en position, ils étaient après faire cuire quelque chose, ils sont dans la lave là, mais ils sont pris là, là.
Ouais.
Alors c'est très subi, ça veut dire. Mais
Ouais.
encore aujourd'hui là, on a juste à penser la semaine passée puis cette semaine en Floride là. Quand t'as le coup de vent ou que la tornade passe, ça ne prend pas 2 jours. On le sait 2 jours d'avance. Mais quand ça passe, ça prend 1 heure, puis tout est détruit, là.
Ouais, c'est ça. Ouais, Dieu est capable de faire
Ah, absolument, absolument.
rien pour lui. Ouais.
Oui.
Il va détruire par l'éclat de son avènement, par le souffle de sa bouche.
Une question.
Oui.
Verset 18:4, là, ça rapport avec quand il parle de son peuple, là, il parle des saints qui se seraient convertis à ce moment-là ou pendant la tribulation. Ou parce que nous, normalement, on est déjà avec le Seigneur, là, si j'ai bien compris le passé.
Mais oui, c'est ça, mais il y a les saints de la tribulation, il y a des gens qui vont être sauvés durant la tribulation, mais ça, comme on a dit, ça se rapporte à tout depuis le début, là, depuis la Genèse. Fait que tous ceux qui sont le peuple de Dieu, là, il ne faut pas embarquer dans cette. Faut faire attention pour ne pas embarquer avec cette pensée-là de. C'est toujours la pensée, là, de pas de Dieu. On veut tout faire sans Dieu. On veut exister sans Dieu. Il ne faut pas d'autres pensées comme ça. D'autres, qu'est-ce qu'on veut quoi quand on s'est converti au Seigneur Jésus-Christ? Maintenant, on s'est soumis à lui de cœur. On veut lui obéir. On veut le servir. On ne veut pas vivre sans lui. Puis la vie, l'affection de la chair, Paul il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et non à celles qui sont sur la terre. Il faut s'attacher aux choses d'en haut. C'est toujours le principe est bon pour tous les temps. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, puis ne participez pas à ses péchés. Et c'était l'histoire d'Israël. Ils voulaient être comme les nations.
Merci pour l'invitation.
Ils ont servi les dieux des nations. Seigneur, ils ont eu des conséquences à ça. Fait que le Seigneur nous demande la séparation. C'est ça la sanctification. On est un peuple sanctifié pour Dieu. On appartient à Dieu. Puis aujourd'hui, c'est plus populaire la sanctification. Bon, pas grave, on peut. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi, je vais servir Dieu à ma manière. Justement, Dieu ne veut pas être servi à sa manière. Puis je parlais avec mon garçon. Je ne sais pas si c'était avec mon garçon. Tantôt, je parlais, puis il disait ça. Si tu veux, ou avec Marc, je pense que je parlais de ça. On dit, il y en a, c'est comme, essaye ça avec ton employeur, ouais. Essaye de le servir à ta manière, hein. Il va te donner une paye à ta manière aussi.
Merci.
OK, c'est que le temps, on a dépassé un petit peu. On va peut-être avoir un mot de prière. Puis après ça, mais s'il y en a qui veulent continuer, on pourra discuter. Mais ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on va te remercier encore une fois parce que cette pensée-là, Seigneur, elle existe depuis que le péché est entré dans le monde. On voit que la lignée de Caïn, Seigneur, ces gens qui ont essayé de vivre sans toi. Puis nous aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. On te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as séparés. Puis que tu nous demandes encore, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Oui, dans la position, on est séparé du monde. Mais dans la pratique, Seigneur, on veut te demander que tu nous donnes de toujours se séparer de la façon de penser du monde, se séparer de ce monde qui veut vivre sans toi. Nous, Seigneur, on veut vivre avec toi, on veut être obéissant, on veut chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On sait que tu vas la compléter, cette sanctification-là, à ton retour, en un instant, d'un clin d'œil, on va être transformé, puis on va aller à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Mais présentement, Seigneur, qu'on puisse se séparer de cette façon de penser-là, puis qu'on puisse se soumettre à toi et se soumettre de cœur à celui qui nous a tant aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Comme Paul pouvait dire, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On te remercie et bénis chacun, Seigneur, puis on te prie pour la suite quand on va regarder l'histoire de Joseph, que tu puisses nous bénir encore. Merci pour tous ces mystères que tu nous as fait connaître dans ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.
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 Amen.